Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles, si votre plateforme le permet, pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 31e épisode, je reçois la docteure Pauline Krug-Tricot, pédiatre spécialisée en néphrologie pédiatrique, et créatrice du podcast Weepies, dans lequel elle alterne entre épisodes très spécifiques, conversations avec des professionnels et réponses aux questions de parents et d'enfants. Dans cet épisode, on aborde longuement ensemble la formation des pédiatres et vous comprendrez que le suivi pédiatrique est très important, mais qu'une approche pluridisciplinaire est primordiale concernant l'allaitement, la diversification ou encore le sommeil. Pauline nous détaille quels sont les examens recommandés dans les 16 premières années de l'enfant et ce qui est vérifié à chaque rendez-vous. Elle nous explique comment se déroule une consultation et comment cela se passe lorsque le médecin qui suit l'enfant détecte une évolution anormale. Enfin, elle nous indique quand consulter le médecin en dehors des consultations recommandées. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pauline.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Merci à toi, je suis hyper contente.
Avec toi, on va parler du suivi pédiatrique des bébés et des enfants. Mais avant, est-ce que tu peux me présenter qui tu es, quel est ton parcours, quel est ton métier, s'il te plaît ?
Alors oui, bien sûr. Donc je m'appelle Pauline, je suis pédiatre. Je suis spécialisée en néphrologie pédiatrique, c'est-à-dire tout ce qui touche autour du rein des enfants. Et particulièrement, en fait, j'ai pas mal travaillé à l'hôpital, surtout à Paris, à l'hôpital Necker, où je faisais du suivi d'enfants qui avaient des maladies rénales chroniques, et en particulier les enfants greffés du rein. Donc j'ai travaillé dans ce service de néphro pendant plusieurs années, c'était vraiment super. Et en parallèle, je travaillais en cabinet, où je faisais du suivi plutôt de tout venant, c'est-à-dire de pédiatrie générale, les vaccins, enfin ce dont on va parler aujourd'hui. Et en troisième, j'ai aussi fait un petit peu de crèche, pédiatre de crèche. Ça, c'était vraiment très différent et c'était super aussi. Et okay. En fait, je parle au passé parce que ça fait bientôt 2 ans que je suis expatriée en famille avec mon mari et mes enfants au Japon. Et donc, du coup, je ne peux plus exercer pour un petit temps. Et donc, je me suis un peu réinventée. Je fais un peu de télémédecine et surtout, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Weepies.
Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, s'il te plaît ?
L'histoire de mon podcast, c'est que j'écoute plein de podcasts. C'est grâce à ça que j'ai découvert Parents Informés. J'adore les podcasts de toutes sortes. Et puis, je cherchais à comment continuer à pratiquer la médecine différemment puisque je ne peux pas avoir de patients ici. Et puis, ça m'est venu en pleine nuit, pendant le confinement l'année dernière. Je me suis dit tout à coup, mais pourquoi moi, je ne lancerais pas mon podcast ? Je fais comme toi des interviews de gens, de paramédicaux, de collègues médecins, pédiatres surspécialisés, par exemple un allergologue. Je parle de pédiatrie générale, de parentalité. J'essaie d'avoir des questions d'enfants, des questions de parents sur le sommeil, l'alimentation. Voilà, c'est assez varié et je m'amuse beaucoup. En tout cas, j'adore.
Les épisodes que moi j'ai écoutés, c'est des épisodes qui sont assez courts sur un sujet hyper précis. Et je trouvais ça génial d'avoir un concentré d'informations sur un sujet donné, par exemple sur les nuirésies ou ce genre de choses.
En effet, oui, je concentre. J'espère que c'est pas trop pontifiant, mais j'ai adoré donner des cours quand j'étais chef de clinique. Donc je donnais des cours à des étudiants en médecine. Et après, voilà, j'adore transmettre en fait. Donner de l'information aux parents, vraiment, j'adore ça.
Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à toi d'être pédiatre ? Est-ce que c'est une vocation que t'as toujours eue ?
Alors écoute, c'est marrant, je me souviens de la minute exacte où j'ai voulu être pédiatre, c'est véridique. J'avais 8-9 ans et j'étais en vacances à la montagne avec mes parents, il n'y avait pas d'écran, j'avais plus aucun livre, enfin vraiment je me faisais suer comme c'est pas permis. Après le ski, et j'ai feuilleté un magazine qui traînait sur la table basse. Et là, j'ai vu la photo, mais je le revois comme si c'était hier. Et c'était un médecin qui tenait dans sa main, on ne peut pas dire autrement, un nouveau-né. Il avait la tête dans la main et puis le corps du nouveau-né sur le bras. Là, je suis en train de faire le geste, mais vous ne me voyez pas. Et en fait, il avait son regard plongé dans les bras de ce nouveau-né. Et j'ai dit à mes parents, mais moi, c'est ça que je veux faire. Et donc voilà, depuis, j'ai voulu être pédiatre. Alors après, ça a pas mal changé parce que j'ai voulu faire médecine. Et puis arrivé en médecine, dès que je découvrais une nouvelle spécialité dans mes stages, je voulais faire ça. Donc j'ai voulu faire être gynéco, endocrino, médecin généraliste, interniste, rhumato. Enfin, je suis passée par toutes les spécialités.
T'as tout envisagé.
Pas la chirurgie, voilà. Il fallait mieux pas, d'ailleurs, mais... Et puis, j'ai fait un stage de pédiatrie que j'ai adoré. J'étais en néonat et en pédiatrie générale avec un peu de garde aux urgences. Mais j'ai trouvé ça assez dur moralement. Et donc, je me suis dit, peut-être pas pour moi, finalement. Et quand je suis revenue chez les adultes, après, j'ai dit, ah non, moi, c'est vraiment les enfants. c'est pas autre chose.
Combien de temps d'études pour être pédiatre ?
Écoute, moi, c'était 10 ans et c'est en train de passer à 11. Mais en fait, il y a 6 ans d'études de médecine un peu généraliste. Et puis ensuite, au bout de ces 6 ans, on passe ce qu'ils appellent un examen national classant, qui est une espèce de concours. Et donc, cet examen va nous dire, en fonction de notre place, de notre classement national, quelle spécialité on va pouvoir choisir et dans quelle ville on va pouvoir être formé. Donc on va choisir, moi j'ai choisi pédiatrie à Paris parce que mon classement me le permettait. Et ensuite on a 4 ans de formation qui s'appelle l'internat où on fait des stages qui durent 6 mois, donc des semestres. Donc tout ça c'est pendant 4 ans, donc on change comme ça, on change de stage tous les 6 mois. Et donc à ce moment-là, on est encore étudiant, mais on gagne sa vie à peu près, on va dire, suffisamment pour être à peu près autonome, même si c'est pas génial. En pédiatrie, c'est particulièrement intense ces 4 ans. Pour vous dire un peu, c'est des semaines facilement de 80 heures de boulot, puisqu'on a des journées dans notre stage, et puis on a des gardes, souvent soit aux urgences, soit dans notre service. Garde en pédiatrie, c'est à peu près 3 à 4 par mois, donc ça revient souvent, c'est quasiment une par semaine. Très souvent le week-end, donc j'ai facilement travaillé un week-end sur deux à l'hôpital. Donc ça pendant 4 ans, donc faut tenir le rythme
jusqu'au bout, quoi.
Ouais. Mais ça montre aussi que c'est une belle formation, parce que On passe tellement de temps, c'est sûr, on est fatigué, les internes, c'est vraiment une période qui est hyper difficile, et en ce moment, on entend des histoires vraiment terribles sur des burn-out et des très grosses dépressions, voire même des suicides, c'est vraiment dramatique. Mais si on est bien accompagné, bien traité par ses pairs, franchement, c'est une période magique, on apprend plein de choses, et on est confronté à énormément de situations, enfin, et toutes ces gardes, tous ces week-ends, donc c'est hyper formateur.
Ça permet aussi de balayer beaucoup de cas.
Voilà, exactement. Donc aux urgences, on va voir à la fois j'ai mal à l'oreille de 5h du matin, mais aussi le truc hyper rare, le diagnostic. Donc peut-être on le reverra jamais dans notre vie ou dans notre carrière de pédiatre, mais le jour où il faudra l'évoquer, on se dira « Ah, mais je me souviens !»
Ouais.
Non, c'est vraiment une belle formation parce que voilà, c'est presque exhaustif en fait, on voit vraiment énormément de choses.
Ok, ça a l'air hyper intéressant.
Ouais, non, c'était vraiment super. Et maintenant, cet internat est passé à 5 ans, ou est en train de passer à 5 ans. Et en fait, il y a la dernière année qui est une année de pré-séniorisation, c'est-à-dire une année de glissement entre l'internat et ce qu'on appelle le clinica. Le clinica, c'est une période de 2 ans qu'on n'est pas obligé de faire, mais qui nous permet souvent d'acquérir une surspécialité. Donc en fait, pour être néphrologue pédiatre, là, pour savoir m'occuper du rein, j'ai refait 2 ans à l'hôpital, où là, j'étais médecin, enfin j'avais passé ma thèse, j'avais le titre de docteur, mais j'étais quand même encore un peu en formation, enfin même beaucoup en formation.
Ok. Et alors, quand tu me racontes tout ça, je me dis à la fois, c'est génial, vous voyez plein de cas et c'est super, et à la fois, je me demande, est-ce que dans votre formation, il y a aussi tout ce qui est formation de base dans la parentalité, à savoir l'allaitement, que ce soit au sein ou au biberon, l'alimentation, le sommeil des bébés. Est-ce que vous voyez aussi tout ça, ou c'est vraiment très orienté malade-maladie et soins?
Ouais, alors ça, c'est honnêtement, on ne voit pas ça du tout. Et
d'accord.
C'est d'ailleurs ce que les parents nous reprochent beaucoup. Et c'est un peu ce que les pédiatres disent à l'ancienne, balayent un peu d'un revers de main en disant « c'est comme ça, les biberons c'est comme ça, l'allaitement c'est comme ça ». Ou bien même, il y en a qui vont franco en disant « vous demanderez à votre mère, moi c'est pas mon problème ». Quoi.
Okay.
Mais j'ai entendu des parents me raconter ça. Après, on est parfois confronté à des questions un peu surprenantes où on se dit, mais pourquoi je répondrais à cette question? Mais c'est rigolo. Par exemple, quand est-ce qu'il faut que je retourne la nacelle dans la poussette? À quel moment je peux le mettre un peu plus assis? Bon, c'est des choses, moi, j'en sais rien. Ça, typiquement, j'ai pas appris, mais je suis maman, donc je me suis posé les mêmes questions, et donc on en discute ensemble, et généralement... L'idée, c'est de ne pas répondre de façon trop péremptoire et d'ouvrir la discussion sur ce genre de sujet. Mais en tout cas, pour tout ce qui est sommeil, alimentation, allaitement, on nous en parle un peu, mais on voit ça hyper vite, qu'un enfant de 18 mois, il fait 2 à 3 siestes, un enfant, il fait la sieste jusqu'à 3-4 ans, il dort tant d'heures par nuit, mais c'est vraiment 2 lignes dans un cours. Jamais on va nous expliquer comment... gérer un enfant qui pleure le soir, comment gérer des réveils nocturnes, des colères dans le supermarché, un enfant qui refuse les légumes, enfin, que sais-je, toutes les questions qu'on se pose quand on est parent au quotidien, quoi.
Enfin, c'est important qu'on aborde cette question, parce que c'est vrai qu'en tant que parent, les seuls rendez-vous obligatoires qu'on a pour nos enfants, c'est avec le pédiatre. Et donc, en tant que parent, on a tendance à s'attendre à ce que ces questions-là, on puisse les poser au pédiatre et que le pédiatre sache y répondre.
Heureusement, on sait quand même, y répondre, mais on se forme un peu sur le tas. Moi, quand j'ai commencé les remplacements en pédiatrie, vraiment juste quand j'ai été thésée, c'était mon angoisse ultime, comment je vais parler de la diversification, de l'introduction des purées. Et donc j'ai lu des bouquins, des tas de trucs, et puis je suis arrivée avec la confiance en soi que peuvent avoir des jeunes médecins en disant il faut faire comme ça, mettre de la pomme de terre. Bon, et puis finalement on s'aperçoit, les parents ils n'ont pas du tout envie de ce genre de discours. Et puis moi j'ai été confrontée à ça parce que j'ai 4 enfants, donc je me suis aussi posé les questions. J'ai vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, et puis j'ai eu le retour des parents qui m'ont dit moi il aime ça, il aime pas ça, on m'a dit que, et puis j'ai lu de mon côté, donc autant alimentation, sommeil et puis parentalité, c'est des sujets qui moi m'intéressent et qui quand même intéressent beaucoup les pédiatres, et donc on lit beaucoup sur le sujet après.
Oui, donc c'est de l'auto-formation quelque part.
Ouais, Oui, franchement, oui. Et notamment la parentalité. Il y a un DIU, c'est-à-dire un diplôme interuniversitaire de parentalité, enfin de formation à la parentalité, je n'ai pas l'intitulé exact, qui est organisé par le docteur Catherine Guéguin, qui vient d'être créé à Paris et qui est vraiment dédié aux pédiatres, aux professionnels de santé, pour savoir comment accompagner les parents dans leur parentalité. Ça, c'est génial. Mais c'est nouveau. C'est vraiment...
C'est le début de la formation des professionnels de santé à tous ces sujets.
Et d'ailleurs, enfin, on en reparlera peut-être après, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de place, nous, pour faire ça en consultation, parce qu'on a 20 à 30 patients par jour. Ça défile au cabinet. On a des otites, des vaccins. On passe à la gastro, on passe à la roséole, et un vaccin et un examen de 2 ans. Et voilà, c'est ça nos journées. Et puis tout à coup, l'examen de 2 ans, bah, on voit une maman effondrée qui dit « Mais je reconnais pas mon petit garçon, il fait des colères, il se roule par terre ». Et nous, on est là, on a la salle d'attente pleine, on a le petit qui vomit derrière la porte. Enfin, c'est la panique et on n'a pas ce temps qu'on devrait avoir pour répondre à toutes ces questions. Et ça, moi, je réfléchis beaucoup à comment faire pour organiser ça au sein d'un cabinet ou sous forme de petites journées de formation, de petits ateliers. Mais après, est-ce que c'est le rôle du pédiatre de faire ça? Je ne sais pas.
Je pense que ça fait partie des questions qu'il faudra se poser dans la société française. C'est-à-dire que entendre que les pédiatres n'ont pas cette formation-là et que peut-être c'est pas à eux de faire ça. Mais du coup, si c'est pas à eux de faire ça, il faut que les parents ils soient accompagnés par d'autres professionnels dont c'est le métier. Mais reconnaître que cet accompagnement-là, il est nécessaire pour les parents. Et qui doit être fait par quelqu'un, et que donc ça doit être dit aux parents que les pédiatres, ils n'ont pas cette formation-là, et que par contre, ils peuvent s'adresser à d'autres personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très peu dit.
C'est exactement. Après, la dérive, c'est que n'importe qui, entre guillemets, peut s'autoproclamer conseillère en sommeil, conseillère en parentalité, de discipline positive. Donc il y a des associations, la discipline positive par exemple, qui sont super, qui sont reconnues, des formations très, très formalisées. Donc n'importe qui peut pas dire je suis formatrice en discipline positive, mais des conseillères en sommeil, ça peut se trouver. Et donc il y en a des super. D'ailleurs, t'en as interrogé une qui est extra. C'est génial, J'ai adoré tout ce qu'elle a dit. Franchement, c'est très sensé, c'est vraiment génial. Mais il y en a d'autres qui vont asséner des vérités hyper péremptoires à des parents qui vont être complètement paumés parce qu'ils n'auront eu aucune information. Ils seront fatigués par les nuits hachées. Ils vont prendre ça comme vraiment la parole d'évangile. Et ça peut être des dérives un peu sectaires, un peu dangereuses. Donc, il faut aussi vraiment se méfier de qui on a en face, je pense.
Et est-ce que c'est pas le rôle des infirmières puéricultrices ?
Ce serait génial. Moi, mon rêve, c'est de monter un cabinet avec une infirmière puéricultrice libérale, une sage-femme... je dis une ou un, hein, je suis pas du tout voilà, et un ou une psychologue pour enfants, enfin franchement j'adorerais quoi, c'est le combo gagnant à mon avis.
Ok, ça marche. Bah écoute, longue introduction mais très intéressante, je pense que c'est important que les parents ils aient tout ça en tête quand ils vont chez le pédiatre aussi. Alors on va rentrer dans le vif du sujet du suivi pédiatrique. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est que le suivi pédiatrique des enfants, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on est censé faire en tant que parent?
Alors le suivi pédiatrique, il est hyper important. Tu te doutes que je vais pas te dire que je vais pas te dire le contraire. Non, on sert à rien en fait. Non, c'est très important.
Oui, bien sûr.
Il y a 20 examens médicaux qui sont recommandés et qui sont donc remboursés de la naissance jusqu'à 16 ans. Donc 16 ans, c'est grand. On peut se dire c'est un peu idiot. Pourquoi 16 ans? Parce qu'on considère que 16 ans, c'est la fin de la croissance et de la puberté, en gros. Donc les 20 examens, il y a un premier qui est dans les 8 jours qui suit la naissance, un autre vers 2 semaines et puis un autre vers 1 mois. Ensuite, c'est tous les mois jusque 6 mois. Donc vous savez qu'il y a pas mal de vaccins au début, il y a 2 mois, 4 mois, 5 mois. Ensuite, il y a un examen à 9 mois, un examen à 11 mois et 12 mois. Donc là, deux examens rapprochés parce qu'il y a des vaccins. Il y a entre 16 et 18 mois pour aussi un rappel de vaccin. Un autre à 2 ans, puisque c'est vraiment une étape du développement qui est très importante, 2 ans. Et ensuite, une fois par an, jusqu'à la fin de la croissance. Et donc, pendant ces rendez-vous, on va vérifier plein de choses. Déjà, on va faire un interrogatoire, ce qu'on appelle l'anamnèse. C'est-à-dire on va discuter avec les parents, avec l'enfant. Moi, j'aime bien discuter avec l'enfant. Alors, parfois, ça prend un peu de temps parce qu'il veut répondre lui-même à tout, mais ça peut durer un petit peu longtemps sur qu'est-ce qu'il aime manger. Donc, c'est hyper sympa, mais du coup, ça peut diluer un peu la consultation. Donc on fait tout un interrogatoire sur l'alimentation pour les tout-petits, allaitement ou biberon, le développement psychomoteur, sur la famille, la relation que le bébé peut avoir avec son entourage, ses frères et sœurs, ses parents, qui le garde, est-ce qu'il a un bon attachement justement aux personnes qui l'entourent, comment est son sommeil, voilà. Donc il y a vraiment plein de questions en fonction de l'âge de l'enfant. Pour les plus grands, évidemment, comment ça se passe à l'école, s'il a des activités extrascolaires. Moi, j'aime bien regarder l'enfant qui... Enfin, pendant ce moment-là, c'est un moment qui est déjà un vrai moment d'observation, en fait. Voir s'il écoute, s'il se sent pas concerné, s'il va vers les jeux, parce que j'ai souvent une caisse de jeux dans le cabinet. S'il a envie de répondre, s'il est à l'aise, s'il est déjà en train de pleurer parce qu'il n'a pas envie d'être examiné. Enfin, c'est déjà... une grande étape de l'examen. Mmh. Et puis je demande aux parents et à l'enfant de le déshabiller. Généralement, je demande qu'on le laisse en couche ou bien en sous-vêtements. Pour le tout petit, donc évidemment, c'est la maman qui fait. Pour le grand, c'est intéressant de le voir se déshabiller, de voir comment il se débrouille, parce que ça fait partie aussi du développement psychomoteur. Et puis toujours, jamais je force à se déshabiller, hein, évidemment. Toujours j'explique pourquoi j'ai besoin de tout voir, mais que s'il n'est pas d'accord, on va y aller par étapes. Et puis quand il sera prêt, il me dira. Et s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, évidemment, je ne vais pas le forcer. Okay. Voilà. Ensuite, généralement, je commence par peser, mesurer le périmètre crânien, le tour de tête. Et je reporte sur le carnet de santé, hein, parce qu'un chiffre de taille, poids et périmètre crânien, ça n'a aucun intérêt en valeur absolue. C'est intéressant que si on le reporte sur la courbe.
Les fameuses courbes avec l'identification du plus bas, du plus haut, et
voilà,
pour
exactement.
Avoir une idée de là où se situe l'enfant par rapport à son âge.
Voilà. Et puis un enfant qui était très grand et qui tout à coup rejoint la moyenne, on va se dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vraiment... Généralement, un enfant en bonne santé, il va bien grandir, bien grossir. Et un des premiers signes d'un enfant qui ne va pas bien, c'est quand même souvent une cassure de la courbe de poids. Donc c'est vraiment, vraiment essentiel de peser, mesurer, mais de reporter sur la courbe. Et donc une fois que j'ai fait ça, généralement, donc le tout petit bébé, je le mets sur la table d'examen et je commence par l'ausculter avant qu'il pleure. Donc ausculter, c'est écouter avec le stéthoscope que je réchauffe parce que sinon il va sauter au plafond, c'est pas très agréable. C'est des petits détails, mais voilà, si je mets un stéthoscope glacé sur la poitrine d'un nouveau-né, on est fichu. Après, j'entendrai plus rien, il va être à cran, hyper stressé. Et ensuite, généralement, je déroule l'examen vraiment des pieds à la tête, donc le tout petit. Je vais palper sa fontanelle, palper ses sutures, regarder qu'il a bien les oreilles symétriques, qu'il n'y a pas une malformation évidente, regarder qu'il suit bien du regard, ouvrir sa bouche, voir où en sont ses dents, ses gencives, qu'il n'ait pas de petits boutons. Voilà. Donc je descends comme ça des pieds à la tête. De la tête aux pieds plutôt, et puis j'ausculte cœur et poumon, je palpe le ventre à la recherche d'un foie, d'une rate, parce qu'on n'est pas censé les palper en fait. Si on les palpe, d'accord, c'est qu'ils sont trop gros. Les organes génitaux, on regarde bien que les testicules soient en place, que le conduit urinaire du petit garçon soit bien au bout du zizi, qu'il n'y ait pas une petite hernie, autant chez le garçon que chez la fille. On regarde les hanches, qu'elles soient bien stables, qu'il n'y ait pas de craquement quand on les manipule. Donc voilà, on regarde vraiment tout ça. Au passage, on regarde la peau, qu'il n'y ait pas de taches, d'angiomes, de boutons. Voilà, je fais les gestes en même temps. Je m'imagine un petit bébé sous mes mains.
Tu t'y revois.
Oui, j'adore. Et puis, on regarde aussi chez le tout petit les réflexes archaïques. Vous avez dû voir hein, le petit qui marche quand on le soulève. Mm-hmm. Donc ça montre en fait la marche automatique ou le réflexe d'agrippement, le grasping. Hein, vous savez, quand on met l'index dans la paume de main d'un tout petit bébé, il va serrer spontanément. Donc ça, en fait, c'est des réflexes qui sont normaux à la naissance et qui vont disparaître. Et la disparition de ces réflexes, ça va montrer que toutes les voies neurologiques qui relient le cerveau au reste du corps se mettent bien en place. Donc c'est important que ça disparaisse.
D'accord.
Et puis pour le plus grand, c'est un peu la même chose. Je rajoute, donc on ne fait pas les réflexes, mais je rajoute la tension artérielle. Souvent, je regarde les oreilles avec mon otoscope. Parfois, un petit fond d'œil rapidement aussi à la lampe. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça se déroule. Et puis, donc ça, c'est plutôt pour l'examen systématique. Et puis, évidemment, pour un examen pour une maladie particulière, une demande particulière des parents, ben, je vais insister sur l'organe ou sur la plainte concernée.
Oui, donc c'est pas juste je le pèse, je le mesure et tout va bien.
Non, et je pense que c'est hyper important de déshabiller les enfants. C'est vraiment...
D'accord.
Parce qu'on peut voir des bleus, on peut voir un enfant qui ne se lave pas, on est surpris parfois, hein, mais ouais, vraiment hyper important. Ça peut, ouais.
Je pense que c'est important aussi, c'est vrai qu'en tant que parent, j'allais dire de parents bienveillants et qui se comportent de manière normale avec leurs enfants, on a toujours l'impression que cette visite, bon, finalement, on le pèse, on le mesure, tout va bien, c'est pas très grave.
Ouais.
Finalement, j'imagine que vous, dans votre cabinet, vous voyez aussi des parents qui sont pas forcément toujours bienveillants. Il y a des violences envers les enfants, il y a de la maltraitance. Et j'imagine que pour vous, c'est aussi un moyen de vérifier tout ça.
Exactement. Je me souviens d'une petite fille à l'hôpital qui venait pas du tout pour ça. Elle venait pour le suivi de sa greffe rénale, mais j'insistais qu'elle se déshabille et en fait, elle se lavait pas du tout.
D'accord.
Et c'était vraiment dramatique. Et c'est la maman qui m'avait dit « je n'arrive pas, elle refuse ». Et donc, la consultation entière avait été tournée sur trouver des solutions, une aide pour la maman, alors qu'elle venait pour le suivi de sa greffe rénale. Mais moi, je vais pas me contenter de regarder son ventre, sa prise de sang, puis lui dire « moi, elle se lave pas, mais c'est pas mon problème ». C'est, voilà, c'est ça la pédiatrie, c'est très global, je pense. Il faut être consciencieux et aller au bout des choses.
Comment ça se passe si vous identifiez quelque chose qui sort de la normalité de vos examens? Est-ce que c'est adressé vers d'autres professionnels? Comment ça se passe quand il y a une identification comme ça? Par exemple, un enfant qui a 2 ans commence à casser sa courbe de poids et de taille. Oui. Quelle est la suite après?
Alors ça va bien sûr dépendre du problème, évidemment, dépendre de depuis quand c'est installé, très souvent en fait je vais essayer d'alerter le parent. Alors c'est le moment un peu compliqué parce qu'il faut pas trop inquiéter le parent, mais suffisamment pour qu'il se sente concerné. Donc ça c'est pas les meilleurs moments de notre métier, on va dire, hein, les annonces comme ça. Généralement, moi, je demande à revoir et puis pour une cassure de la courbe de poids, par exemple. Et puis après, si ça se confirme, là, il y a tout un bilan que nous, en tant que pédiatre généraliste, on sait prescrire et interpréter. Donc, c'est principalement des analyses de sang, hein, et d'urine aussi, souvent. Après, très souvent, on peut adresser directement à des spécialistes. C'est important toujours de dire quand on ne sait pas, de toute façon. C'est pas une honte et je pense que les parents, ils préfèrent ça plutôt qu'on fasse semblant, qu'on traîne. Donc, passer la main, c'est hyper important.
Et alors, ce que j'ai noté dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des examens spécifiques, notamment, moi, j'avais en tête les 9 mois de l'enfant, enfin du bébé, où il y a le médecin qui a rempli un formulaire qui a envoyé à quelqu'un. Est-ce qu'il y en a d'autres des comme ça? Et à qui c'est envoyé? À quoi ça sert?
Oui, alors en fait, c'est ce qu'on appelle les bilans de santé. Donc, il y en a un à 8 jours qui est en pratique l'examen de sortie de maternité. Donc, souvent, c'est la maternité qui s'en charge. Et puis, il y a 9 mois et 24 mois parce que c'est vraiment des étapes clés du développement psychomoteur. On est censé remplir ce certificat qu'on trouve dans les carnets de santé et l'envoyer ensuite à la PMI. La PMI, c'est la protection maternelle et infantile. En fait, je dis censé parce que j'avoue qu'on ne le fait plus vraiment. Parce qu'on manque de temps et qu'on ne sait pas trop ce que ça devient. En fait, avant, cet examen, il était obligatoire parce qu'il permettait d'établir des statistiques, par exemple sur l'âge de la marche ou sur le langage des enfants, statistiques qui sont plus trop faites, je crois. Et surtout, les allocations familiales, n'étaient délivrées que si le certificat avait été rempli, ce qui n'est plus le cas maintenant.
Chez qui on peut faire ce suivi pédiatrique? Parce qu'il me semble qu'on peut le faire à la fois chez un pédiatre ou chez un médecin généraliste. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui sont habilités à faire ce suivi?
Alors non, ça va être que généraliste et pédiatre, mais ça peut aussi être fait dans le cadre de la PMI, la protection maternelle et infantile, donc de 0 à 6 ans. Et dans ces cas-là, c'est gratuit. Et donc, il y a un médecin dans chaque PMI. Donc, vous avez une PMI dans... dans tous les arrondissements de Paris, dans plein de quartiers, dans les villes. Il suffit de prendre rendez-vous, c'est gratuit. Et donc, il y aura un médecin qui sera soit un généraliste, soit un pédiatre qui assurera la visite. Avec très souvent une infirmière, une sage-femme, une puéricultrice qui pourront en plus vous donner des conseils, voilà, prendre un peu plus le temps.
D'accord. Les consultations de suivi pédiatrique, elles sont prises en charge à 100%?
Alors, dans les 20 obligatoires, elles sont prises en charge à 100%. Après, elles sont prises en charge à 100% sur la base du tarif sécu, donc qui est la base secteur 1. C'est-à-dire que si vous allez chez un pédiatre à 80 €, il n'y a pas 80 € qui vont être pris en charge.
Oui, d'accord, ok. Donc ça, c'était le suivi pédiatrique. En dehors de ce suivi-là, quand est-ce qu'on amène son bébé chez le médecin quand il est malade? Alors ça, c'est une grande question que moi, je me suis posée pendant longtemps, ouais, quand j'étais maman de bébé. C'est à partir de quel moment mon bébé, il faut que je l'amène chez le médecin, ou en dessous de quel moment ça sert à rien que je l'amène, parce que de toute façon, ça fait juste 4 heures qu'il a de la fièvre, et que donc si je l'amène chez le médecin, il va me dire « revenez dans 24 heures ouais ». Voilà, qu'est-ce qu'on fait en attendant, ouais, et quel est le moment où on est censé amener son médecin, enfin son enfant chez le médecin?
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au début, quand on est jeune parent, on va avoir tendance à l'emmener hyper souvent. Alors il y a quelques parents, mais c'est plus rare, qui ont tendance à ne pas oser, puis au contraire à venir vraiment un peu ric-rac, mais ça c'est plutôt rare. En général, on emmène son enfant vraiment à la moindre fièvre, et puis c'est votre pédiatre qui saura vous dire la prochaine fois, peut-être vous pouvez vous donner 24 heures, quelques conseils, le déshabiller, lui donner à boire, lui donner du paracétamol toutes les 6 heures, et puis rapidement, les parents sauront un petit peu quelles sont les bonnes indications, ou à quel moment on peut attendre. Après, ce qui est bien, ça dépend un peu des pédiatres, mais si vous pouvez envoyer un petit mail ou passer un petit coup de fil pour savoir. Parfois, il y a même des secrétaires qui font ça. Enfin, moi, j'avais une secrétaire extraordinaire qui filtrait comme ça, qui disait « Oh ben là, vous pouvez attendre un petit peu, certainement, mais j'en parlerai au pédiatre quand elle sort de consultation. » Et puis, quand je sortais de consultation, je lui disais « Bah oui, t'as eu raison. » Ou bien « Oh ben non, ce serait pas mal que je la voie, j'ai un petit créneau. » Donc, elle rappelait les parents pour leur dire... Voilà, ça c'est l'idéal, c'est pouvoir avoir une communication hors consultation, qu'on n'a pas toujours le temps malheureusement, et puis moi j'aime pas prendre des coups de téléphone pendant la consultation, parce que sinon c'est hyper haché pour le parent qu'on a en face, c'est un peu désagréable je trouve, voilà, généralement je rappelle entre deux rendez-vous, et puis on peut donner déjà deux, trois petits conseils.
Oui, parce que moi, le souvenir que j'en ai du coup de ça... C'est que les consignes, c'était à peu près, s'il n'y a que de la fièvre, on attend 24 à 48 heures de voir s'il y a autre chose qui se développe, une poussée de boutons, etc. Par contre, s'il y a des signes de toux, de fatigue respiratoire, ce genre de choses, on n'attend pas.
Ou de comportement.
Mais s'il n'y a que de la fièvre, on attend.
Exactement. Ouais. Sauf cas particulier, malformation urinaire par exemple. On sait qu'un enfant va faire plus d'infections urinaires. Mais ça, les parents ont les consignes en général. Ils savent assez vite. Puis c'est un peu pareil pour les vomissements, la diarrhée. On peut se donner un petit peu de temps. Mais si un enfant refuse complètement de boire, vomit à chaque gorgée et puis à plusieurs selles par heure, évidemment, il va falloir consulter plus vite que si c'est un vomissement comme ça. Mais dans le doute, mieux vaut consulter ou passer un petit coup de téléphone. Et puis j'espère que vous ne vous ferez jamais gronder par votre médecin d'avoir consulté pour rien.
Combien de temps ça dure une consultation?
Alors l'idéal, une consultation... Enfin moi j'ai du mal à faire moins de 20 minutes parce que il faut le temps déjà de déshabiller et de rhabiller. C'est très long chez les bébés. Et puis il faut le temps de discuter un peu et puis de faire bien son travail. Moi je veux pas, enfin une otite, si vous venez parce qu'il a mal à l'oreille, moi je le mettrai quand même en couche et, ou en caleçon. Donc ça prend du temps de faire bien les choses. Une consultation de suivi, j'aime bien avoir une demi-heure. Alors après c'est toujours difficile d'organiser l'agenda en fonction des urgences, mais on se débrouille à peu près. Et puis l'idéal, c'est la toute première consultation de sortie de maternité, qu'elle soit de 3/4 d'heure, 1 heure. Ça, c'est vraiment, je trouve que c'est la consultation où la confiance va se faire entre le parent et le pédiatre. Il faut qu'il ait le temps de poser les questions, le temps de dire que ça va pas, le temps de pleurer si elle a envie. Je dis elle parce que c'est quand même souvent la maman qui est là. Cette consultation, elle est vraiment hyper importante, je pense.
Ouais, alors moi, tu vois, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir amené mes enfants à 8 jours de vie.
Enfin, on sort de plus en plus tôt de la maternité, et donc, en fait, c'est important qu'ils soient vus. Les mamans qui restent 2 jours à la maternité, c'est important qu'ils soient vus quand même. 8 jours, c'est un peu tôt, je suis d'accord, franchement. Mais une petite pesée en PMI, c'est pas mal d'avoir une pesée intermédiaire.
Après, moi, j'avais la sage-femme.
Voilà, exactement, la sage-femme, elle peut...
Qui venait
voilà,
faire la pesée, qui était venue, à la maison...
Ouais. Ouais. Elle peut faire cet examen des 8 jours et puis comme ça, ça permet que le bébé il reste dans son environnement. Voilà, moi j'aime bien les voir quand même dans le premier mois, mais 8 jours, je suis d'accord que c'est un peu tôt. Puis trouver un rendez-vous comme ça, c'est pas évident non plus d'un point de vue purement pratique.
Exactement, et puis c'est vrai que c'est une période où c'est perturbant pour tout le monde, donc c'est pas, en général, c'est pas la priorité.
Oui, et puis on n'a pas envie d'être avec son petit nouveau-né en salle d'attente avec des petits 2 ans qui crachent et qui toussent. Enfin bon, c'est pas, voilà, c'est pas idéal.
Ok. Écoute, je pense que j'ai fait le tour des questions que je m'étais notées. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter?
Ben non, je crois que c'est bon. Super.
Ok, écoute, merci beaucoup.
Merci à toi. Écoute, j'ai parlé de mon métier avec passion.
Bah ouais, on sent que ça te plaît.
Oui, j'adore. Et puis ce qui me plaît énormément, c'est franchement, c'est au quotidien, c'est hyper fun. Enfin franchement, on s'éclate quoi.
Ouais.
Déjà les bébés, enfin moi j'adore les nouveau-nés, ça me fascine. Ça m'émeut au plus haut point. Vraiment, j'adore les tout-petits, j'adore. J'adore voir arriver un petit et me dire, oh là, il a l'air inquiet, je vais tout faire pour le faire marrer. Et puis ça marche. Les grands qui racontent leur vie, enfin franchement, on rigole bien.
Ah si, j'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on fait quand on tombe sur un pédiatre vieille école qui nous envoie bouler à chacune de nos questions? Est-ce qu'on a le droit de changer?
Ah non, alors vous devez rester avec lui toute la vie. Non, il faut...
Est-ce qu'on peut l'envoyer bouler lui aussi?
Ouais, après, il y a des mamans à qui ça convient, parce qu'il y a des mamans qui ont compris que bah, lui, il était là pour le côté médical et elles n'ont pas besoin d'être... Je dis maman, je suis toujours, hein, c'est un peu vieille école, ça aussi. C'est souvent les mamans, mais des parents qui n'ont pas ce besoin d'être coucounés, orientés sur la parentalité, à qui ça convient très bien. Mais si d'autres parents, ce n'est pas leur truc et qu'ils ont besoin d'être guidés et d'être écoutés pour le reste, bah faut changer, faut avoir confiance. Faut pas à chaque fois se dire, oh là là, j'ose pas, hein, c'est la catastrophe, ça, c'est horrible.
Faites-vous confiance si vous sentez pas en confiance avec votre médecin, changez.
Oui, évident.
Ok, ça marche, très bien, merci beaucoup. Ça me semble une belle conclusion.
Ouais, c'est ça.
Cet épisode touche à sa fin. Dans cet épisode, Pauline évoque l'épisode 20 sur le sommeil, dans lequel j'interroge Sandra Menoni, consultante en sommeil et créatrice de La Nuit des Petits. Je vous mets le lien direct vers la page de l'épisode dans les notes descriptives. Vous pouvez retrouver Pauline et son podcast Weepies, W2EP2ES, sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour, ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We
anyone invite you to listen to our show.
Niña Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.